Normalement, c'est une introduction qui me prend 10 heures. Et là, on essaie encore de faire ça en 2 heures. Donc, je vais assez rapidement. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche, hein, c'est tout. Hein. Donc, voilà, le commandement nouveau, par exemple, je vous... Mais après, c'est à vous de dire, ouais, d'accord, aimez-vous les uns les autres, d'accord, j'ai compris. Non, non, tu n'as pas compris. Si ça ne change pas ta vie, tu n'as rien compris. Hein. Si ça n'affecte pas, si dans tout ce que je fais... Je dis, mais où est-ce que ce verset s'applique, hein? Est-ce que je l'ai fait par devoir ou je l'ai fait par amour? Ça change tout. Quand je fais quelque chose par amour, c'est léger. Quand je fais par devoir, ça peut être lourd. Hein? La première fois, ça va. La deuxième fois, ouh, troisième fois. Oh! Hein? Donc, Dieu a établi des institutions. Rapidement, je vais juste les mentionner. Hein? Donc... Vous avez la famille, hein, c'est la première institution que Dieu a créée, hein, c'était dans le jardin. Avant la chute, Dieu a décidé c'est quoi une famille, hein, et c'est fait pour l'humanité. Il a donné les règles pour l'humanité, et donc la famille, elle a ses règles, et les règles que Jésus a données, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une même chair. C'était simple, mais bon, quand on commence à décortiquer et puis à l'appliquer, ça touche beaucoup de choses. Et c'est pour l'humanité. Donc, ce n'était pas pour l'Église, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité. C'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, c'est que même pour les gens du monde... Celui-là, il a besoin d'une règle d'éthique, là.
Tu disais, Steve ?
Oui, mais... Il y a une règle d'éthique qui dit que quand tu rentres dans l'église, tu éteins le téléphone. Parce que c'est comme ça qu'on aime son prochain comme soi-même. Donc, la première, et c'est pour ça que de nos jours, la famille, puisque c'est une institution de Dieu, donc c'est normal que Satan il l'attaque. Il veut la détruire dans tous les sens. Et en France, on est bien situé pour savoir ce que Dieu on fait. Il y a quelqu'un qui est, j'ai entendu dernièrement, il s'est marié avec son chien. Ben oui, comme ça, le chien, comme ça, quand tu meurs, c'est ton chien qui hérite de tout. Et comme ça, tu lui assures la vie et tout ça. Hein? Et, parce que tu n'aimes personne d'autre dans la vie. Et donc ton chien, comme ça, il lui reste de l'argent, comme ça, on pourra lui acheter à manger et tout. Et il marie à son chien. Mais quand on fait sauter toutes les valeurs de la Bible et on commence à décider de soi-même, hein, après on a des femmes qui se marient entre elles, des hommes qui se marient entre eux, on a des n'importe quoi, on change des hommes qui deviennent des femmes et puis qui se marient avec une autre femme, et, du n'importe quoi de nos jours. Hein. Mais le diable, il dit, fais n'importe quoi pourvu que tu ne fais pas ce que Dieu a dit. Hein, donc, il y a beaucoup d'options. Et tu fais des enfants n'importe comment. Hein, c'est une chose, je viens du monde, je viens comme je suis, avec hein, il y a un truc qu'il faudra réfléchir. Hein. Un de ces jours, vous allez avoir quelqu'un qui va venir, qui était une femme, qui est devenue un homme, et puis il dit, je veux venir au Seigneur. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Les gens comme ça, on n'a pas de place pour eux. Ah, si, si, hein. Mais il faut penser avant qu'ils arrivent. Hein, moi, je me rappelle, j'ai lu l'histoire d'une église où le pasteur, il a averti les gens de l'église, il a dit, il y a un couple lesbien qui va venir à l'église. C'est quelqu'un avec qui je témoigne, c'est un couple lesbien qui va venir. Et donc, il a préparé l'église, il leur a dit comment on va faire, tout ça. Et puis un dimanche matin, le couple vient. Hein, c'est pour éviter que les gens, tout d'un coup, ils les laissent tout seuls, ils s'écartent, ils ne disent pas bonjour, je ne veux pas salir mes mains. Jésus a touché les pécheurs. Hein. Et donc, c'est un truc. Bon, il y a ce couple lesbien, il y en a une qui était intéressée, elle est venue au Seigneur. L'autre a dit, ça ne m'intéresse pas, à l'époque, ils n'étaient pas mariés. Donc, l'autre est partie. Et pour vous raccourcir l'histoire, cette dame, par la suite, c'était une femme de pasteur. Elle est devenue femme de pasteur. Mm-hmm. Mais ça, c'est parce que on a décidé, on a réfléchi comment on va faire avant. Hein? Parce que sinon, vous savez, quelqu'un rentre comme ça, tout de suite on lui dit oh non, mais, oh non, non, les gens comme ça, on ne veut pas. Ben, ils ne reviennent plus. Et puis ils partent avec l'idée que les chrétiens, ils ne nous aiment pas. Alors que Dieu, il aime. Hein? Donc voilà, c'est ça, il faut réfléchir constamment. Hein? Bon, après, la deuxième institution, c'est le gouvernement humain, hein, après le déluge. C'est là où Dieu dit à l'homme, il donne le pouvoir à l'homme et dit si quelqu'un tue, tu le tues. Hein? De nos jours, en France, on a dit non, on ne fait pas comme Dieu. Si tu as commis le crime, non, non, il ne faut pas tuer quelqu'un. Et on a changé. Bon, après, bon, je ne vais pas rentrer plus loin, mais le truc, c'est que Dieu a établi le gouvernement humain parce que l'homme ne veut plus que Dieu gouverne sur lui, donc il a dit ben, il faut quand même mettre de l'ordre. Donc, il faut établir des autorités. Bon, maintenant, après, les autorités abusent. Ça, c'est un autre problème. Hein? Et il y en a qui veulent le pouvoir rien que parce qu'ils aiment bien le pouvoir. Mais le gouvernement, on a besoin de l'ordre. Hein? On a besoin de quelqu'un qui établit des règles selon lesquelles on vit tous. Hein? Je rentre dans une maison où on enlève les chaussures. Et bien, par respect de la maison, quand je rentre, j'enlève les chaussures. Sauf si les gens me disent... Non, on préfère tes pieds avec des chaussures. Et puis après, il y a une éthique d'église. L'église aussi, c'est une institution. Et c'est une institution de Christ. Il a encore l'église. Donc l'église, hein, ce que Dieu avait voulu, c'est que Dieu règne, que ce soit Dieu qui règne. Le péché est entré, donc c'est le péché qui a régné. Et puis avec le salut, avec Jésus-Christ, eh bien, on enlève le péché. Donc, c'est de nouveau Dieu qui règne. Donc, l'Église, c'est une institution vivante où c'est la volonté de Dieu qui est là. Hein? Donc, l'association, c'est juste pour le gouvernement. Hein? L'association, ça n'a rien à faire avec la vie d'Église. Hein? La vie d'Église, c'est quelque chose que je vis. Je vis où le Seigneur, c'est le Seigneur, Jésus-Christ. Je vais plus vite, hein, j'avance. Bon, on arrive au décalogue. Hein. Donc, on arrive aux 10 commandements, là. Je ne sais plus quelle page c'est chez vous. Hein, c'est, ça, donc, alors, le premier commandement sacralise la personne de Dieu. Donc, il dit, Dieu, tu respectes, tu fais attention. Hein, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Deuxième, il sacralise l'image de Dieu. Tu ne représenteras pas Dieu par autre chose. Donc c'est sacré. Le troisième commandement sacralise le nom de Dieu. Hein, c'était ça, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Le premier, c'était tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Hein, le premier. Troisième, c'est donc tu ne t'amuses pas avec le nom de Dieu. Hein. Sacralise le jour consacré. Hein, parce qu'à la création, hein, on reviendra dessus, mais il dit Dieu s'est reposé le septième jour. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Donc, il y avait une autre raison. Hein, et c'est quelque chose qui a été établi déjà et on le respecte quand même. Après, la relation parentale. La relation avec les parents, ça c'est un comportement. Les cultures où ils les respectent, c'est quand même autre chose que les cultures où on ne respecte plus. Hein. Mmh. Ici en France, on ne respecte plus les parents, on ne sait même plus qui ils sont. Donc, et puis souvent, il n'y a même pas de raison pour les respecter. J'ai parlé avec une fille là, il n'y a pas longtemps, elle dit... Elle parle de son père et dit « mon géniteur ». Ça vous dit ce qu'elle pense de lui. « Mon géniteur ». Mais elle dit « j'ai pas de père ». C'est dur, hein, pour une fille de 15 ans qui dit ça.
Il
ne
s'est, hein, pas occupé d'elle.
Il ne s'est pas occupé d'elle, mais il l'a fait souffrir, parce qu'il est encore là à la maison. Il est à la maison et elle dit « c'est mon géniteur ». Hein? Le sixième commandement, tu ne tueras point, hein, c'est sacralise la vie. Hein, l'importance, la vie. Hein, respecte la vie. Et ça touche beaucoup de choses en éthique. Le mariage, Hein, le monde, il détruit tout cela, mais le mariage, c'est sacré pour Dieu. Hein, on ne s'amuse pas avec. La propriété, hein, de ne pas voler. Hein, donc, respecte la propriété. C'est un truc aussi de nos jours. Hein. Tu peux voler, et puis après, c'est l'assurance qui te paye. Ah, c'était pas comme ça. Hein, Dieu, il n'a pas établi comme ça. On va voir. Il sacralise la vérité. Tu ne porteras pas de faux témoignages. La vérité avant tout. Même si ça me fait du tort, je dis la vérité. Mais ça, c'est une décision à prendre. Hein? Ça vient pas naturellement. Hein? Les petits-enfants, déjà comme ça, s'ils voient que ça va lui créer des problèmes, ils disent « c'est pas moi ». Ils disent « c'est pas moi » avant de savoir de... Il est tout seul, et il n'y avait que lui, et c'est pas moi. Ils sont forts. Et après, ils sacralisent la propriété d'autrui. Hein? Tu ne convoiteras point. On va les prendre. On va commencer avec le quatrième. Hein, les quatre premiers, c'est vers Dieu, hein, et les six, c'est vers avec le prochain. Hein, donc, alors le quatrième, c'est souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Là, j'ai mis toute la référence. Je sais pas, vous avez pas le texte peut-être. Mais dans Exode 20, donc à Sinaï, quand il dit, tu travailleras six jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour sera le jour du repos. Tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Tout le monde se repose. On nous dit aujourd'hui, hein, ben, il faut respecter les animaux et tout ça. Ouais, c'est vieux ça, Dieu il a pensé avant les hommes, hein. Ils sont tout fiers d'eux, ouais, on respecte, on protège. Si tu trouves quelqu'un en train de battre son chat, il met une amende. Mais Dieu, il a déjà pensé aux animaux. Il dit, ton âne, tu lui donnes un jour de repos. Ah, ils ne sont pas encore là en France. Ils sortent, et il dit, ta fille, ton fils, ton serviteur, tu le respect, hein. Car en six jours, et voilà, il donne la raison, parce que à la création, Dieu a créé en six jours et il s'est reposé le septième. C'est quel jour que Dieu a créé Adam et Ève? J'entends deux réponses. Sixième jour. Ça veut dire que le premier jour de sa vie, c'était quel jour? Le jour du repos. En fait, le premier jour pour lui, le premier jour de sa vie, c'était le jour pour le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et puis je vous donne six jours pour travailler pour vous, pour pourvoir vos besoins. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est dans l'engrenage. Hein, pendant la Révolution française, ils ont voulu changer la semaine à 10 jours. Et ça a été une catastrophe. On ne s'amuse pas, le monde il est programmé. Hein. Il dit... j'étais jeudi soir, j'étais en train de faire l'étude biblique à Fréjus, là, et la manne, vous vous rappelez, la manne qui est tombée, et tout de suite, ils n'étaient pas encore à Sinaï, hein, donc ils n'avaient pas les 10 commandements encore. C'était avant à Sinaï, ils sont sortis de l'Égypte, et Dieu dit, voilà, déjà maintenant, vous ramassez dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous ramassez une dose, un homer. Vendredi, vous ramassez double. À cause du samedi, du septième jour. Ça, c'était pas. Donc, ce principe, c'est pas la loi de Moïse. Hein. Ça, c'est une loi pour l'être humain. Depuis la création, encore jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que quand je réfléchis, hein, je vous donne un truc, l'application de l'éthique, et en même temps, je fais une exhortation. Ça veut dire, de nos jours, on est en France, là, des fois, on a besoin de travailler dimanche. Ah ben, tant pis, Seigneur, hein, j'ai dû travailler dimanche. J'ai pas été au culte. Il dit, mon jour, c'est quand? Ah ben, ils étaient obligés de travailler. Et tu n'as pas des jours de repos? Oui, j'en ai, bon, c'était mardi. Et alors, et mardi, à qui tu l'as donné? Tu l'as pris pour toi. Et moi, et mon jour, il est où? Hein? Amusez-vous ça avec vos enfants, vous dites, écoute, un jour d'anniversaire est tombé à mardi, moi je travaille, hein, c'est tombé, hein, il est passé. Tu penses, il y aurait la révolution à la maison. Mais pour Dieu, on dit, écoute, Dieu, tant pis, hein, hein, Ma femme, le jour de l'anniversaire du mariage, je l'oublie. Je lui dis, écoutez, on était pris, j'étais préoccupé, je n'ai pas pensé. Ça va te coûter cher, hein? Et ça, c'est pour l'anniversaire de mariage, hein, Jacob. Écoute les anciens. J'ai pas osé. Des fois, c'était juste. Hein.
Je nous dis la date pour regarder ça.
Oui. C'était un 13. C'était pas un vendredi, non? C'était un mardi. Parfait. Moi, je fais rien comme les autres. En fait, c'était l'anniversaire de mariage de mes parents. C'est comme ça qu'on a... C'était 13 août. Voilà. Mais ça n'a rien à faire avec l'éthique. Mais la question, c'est le principe. Donc, je vous dis, en tant que chrétien, si tu as raté dimanche, le culte de dimanche, eh bien, tu trouves, sur ton jour de repos, tu trouves un temps où tu passes avec le Seigneur. Il dit, ben tant pis, ben, c'est comme à l'école, hein, ben, j'étais malade. Ben, le professeur il dit, ouais, tu as une mauvaise note. Ça, c'était toi, tu étais malade, il faut que tu rattrapes, hein, c'est pas une excuse, hein, tu es obligé de faire. Et ben, pour le Seigneur aussi, hein. C'est pour toi, le jour de repos, c'est pas pour Dieu. Le sabbat était fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire, tu en as besoin. Donc, si tu rates un culte, et si tu n'as pas pu faire autrement, tu voyageais ce jour-là, ben tu prends un de tes jours de repos que tu donnes au Seigneur. Bon, j'ai dit ce que j'ai à dire, je crois que j'ai compris. Donc, en Exode, il dit, c'est à cause du jour du repos. Quand il arrive à Deutéronome, donc 40 ans plus tard, Moïse, il va dire, mais aussi, hein, ce jour-là, eh bien, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. Donc, à la délivrance. Donc, le jour du repos, quelles doivent être les pensées du jour du repos? Eh bien, un, c'est parce que c'est le jour du repos que le Seigneur a donné. Deux, c'est où je me souviens de ma délivrance. En fait, s'il y a un dimanche qui passe où je ne pense pas à ce que Christ a fait pour moi sur la croix, j'ai raté un dimanche. Si vous êtes dans l'église de Saint-Denis, s'il y a un dimanche où on ne fait pas mention de la croix de Christ, vous dites, hop, il y a un problème. Ça y est, on a commencé à glisser. Il faut que ce soit. Je ne dis pas que forcément que ce soit la table du Seigneur, c'est une manière de commémorer. Mais on le commémore par les chants, on évoque, on en parle, on le dit. Quelque part, il faut que ça soit toujours là. Hein? Et si on a des enfants, il faut que ça soit dans leur tête, même quand ils dorment, ça, c'est là. Hein? Il dit, donc c'est Dieu, et ça, il a dit, il a fait un coup de main, il a dit, tu le feras. Hein? Donc ça, c'est le quatrième commandement. Hein? Juste, je passe rapidement, je pourrais dire beaucoup d'autres choses. Après, on passe au cinquième. Donc le cinquième commandement, c'est honore ton père et ta mère. Tourne des pages là. Donc, c'est un commandement positif. Honore ton père et ta mère. C'est pas si tu veux, s'ils sont gentils, s'ils sont chrétiens. On a dit honore ton père et ta mère. Et ça, c'est pas rien que pour les enfants, c'est pour les adultes aussi, parce que les adultes, ils ont des parents aussi. Et il dit honore ton père et ta mère. Et honorer, ça veut dire. Vraiment dire du bien. Hein. C'est pour ça que c'est triste si mes enfants ont du mal à m'honorer. Ils disent, je veux bien, mais okay. Avec ce que je vis, avec ce que je ressens, ben c'est un crime. C'est un crime de traiter son enfant de telle manière qu'il dit, moi je ne sais pas comment l'honorer. Je trouve rien. Donnons-lui les moyens d'obéir à Dieu en le respectant. Et il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Et c'est là. Et l'enfant peut être vexé parce qu'on n'est pas juste avec lui, parce qu'on lui fait des promesses qu'on ne garde pas, parce qu'on n'est pas gentil avec sa mère. C'est toutes des manières de vexer un enfant. Il dit, après lui, il a du mal à honorer. Et donc il dit, donne-lui les moyens d'honorer, donne-lui des raisons pour honorer. Hein, rends-le facile pour qu'il puisse obéir au Seigneur. Oui. Voilà, je crois que je vais arrêter avec ça. Donc, c'est repris dans le Nouveau Testament. Hein, donc, c'est pas seulement la loi, hein, parce que là, dans Deutéronome, il ajoute, hein, quand il répète 40 ans après, quand il répète, il dit « afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux ». Quand il parle des jours qui se prolongent, il ne sait pas que tu vas vivre à 150 ans. Il va dire « tes jours se prolongent dans le pays ». Hein, ça met de l'ordre dans une société. Quand dans une société, on ne respecte plus les parents, on n'honore plus les parents, la société est en train de se détruire. Voilà, ça annonce des bonnes choses pour nous, en Europe. Mais dit, dans une société, il dit, mais si tu respectes, s'il y a cette règle-là, si vous honorez, eh ben, votre société durera. Une fois, c'était Philippe qui se faisait retirer les amygdales à la clinique de la Porte de Paris. Là. Et puis, de là, l'infirmier, il a su que j'étais pasteur. Il a dit, pasteur, j'ai une question. J'ai dit, bon, allez-y, on va essayer. Il a dit, ça veut dire quoi ? Honorer les parents afin que tu vives longtemps. J'ai dit, je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Mais tout ce que je sais, c'est que si on honore nos parents, on sera honoré de nos enfants. Il a dit merci. Il a dit parce que je vais voir ma mère, elle ne sait même pas que je viens la voir, et je me demande si je veux encore continuer à la voir. Mais ça, je ne fais pas parce que... C'est comme il y a un homme qui il dit, moi j'ai... Je vais voir ma femme dans le centre de retraite. Je vais voir ma femme tous les jours. Pour le petit déjeuner, je prends le petit déjeuner avec elle. Il dit, et comment elle va ? Bon, elle ne sait pas que je suis là, mais moi, j'y vais. Il dit, mais si elle ne sait pas que tu es là, pourquoi tu vas ? Il dit, elle ne sait pas que je suis là, mais moi, je sais qui je suis. Elle ne sait pas que je suis son mari, mais moi, je sais qu'elle est ma femme. Et donc, j'y vais. Mais ça, c'est un truc que tu décides dans ta tête, hein. Sinon, si tu attends pour être qu'on te dise merci, je suis content de te voir, ouais, chérie. Si tu attends ça, ben, tu vas arrêter. Hein. Tandis que si tu le fais parce que c'est ma femme, et devant le Seigneur, c'est ma femme, eh ben, je continue. Hein. Peu importe, elle. Et tout ça rentre. Hein. Mais ça, c'est de l'éthique. Ça, c'est des choses que je décide à l'avance et qui vont dicter mon comportement. Hein, et mes réactions. Sixième commandement. Donc, il dit, vous avez entendu, on sait, tu ne tueras point. Vous comprendrez que tuer, il faut le comprendre comme Dieu comprend. C'est pas seulement... Tu ne commettras point de meurtre. Parce que, bon, la plupart d'entre nous, elle n'a pas commis de meurtre. Hein. Mais ça, c'est dans la définition légale française qu'on n'a pas commis de meurtre. Mais dans la pensée de Dieu, en fait, je pense qu'on a tous commis, désobéi à ceux. Parce que, justement, regardez comment Jésus prend. Il dit, vous avez entendu dire aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible de jugement. Donc c'était la mort. Mais moi je vous dis, il dit, moi je vous dis ce que pensait Dieu quand il l'a dit. Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Celui qui dira à son frère raca ou idiot mérite d'être puni. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous savez, des parents qui disent à un enfant, t'es nul, tu feras rien dans ta vie. Mais si vraiment tu voudras-tu ? Eh bien, il finit par le, à force de l'entendre, il finit par le croire et il ne fait rien dans la vie. Tu l'as tué. Et moi, je rencontre constamment des adultes qui ont été rabaissés pendant toute leur enfance. Eh bien, heureusement qu'il y a l'Évangile pour te remonter. Et le Seigneur qui te dit, non, tu es précieux, tu vaux quelque chose et tu peux faire des choses. Hein, et peut-être il y en a parmi vous déjà qui... Mais c'est vrai. Il dit, tu ne tues pas, il ne faut pas tuer. Hein, ou dire à sa femme, écoute, toi, tu ne sais rien, mais tu es en train de commettre le meurtre. Tu ne tueras point. Tu es le grand frère qui dit à son petit frère ou sa petite sœur, et tu es en train de la... Non, on l'encourage. À chacun, on l'aide à atteindre le potentiel que Dieu lui a donné. On n'est pas tous égaux, mais on n'est pas encore arrivé à faire tout ce que Dieu a prévu pour nous. Hein? Et de mon expérience ici dans l'Église, eh bien, il y avait des gens dans la société et dit, moi, toi, tu comptes pas beaucoup. Et qui sont venus au Seigneur, et quand le Seigneur a commencé à travailler, tu vois la vie qui change et devient utile et puis heureux. Et oui, c'est ce que la société pense de nous, c'est une chose. Ce que le Seigneur pense de nous, c'est autre chose. Et si je crois à ce que le Seigneur pense de nous, hein, combien de personnes ici disent, mais pasteur, moi, je ne sais pas, je ne sais rien faire. Mais je dis, mais tu ne sais rien faire. Tu dis ça parce qu'on t'a toujours dit que tu ne sais rien faire. Mais tu ne sais pas. Est-ce que tu veux nous laisser travailler avec toi? Et puis c'est fou ce que les gens ont pu faire. Hein? Frère Marcel, je prends l'exemple. J'aime bien. Frère Marcel, il arrive qu'il met les pieds ici la première fois. Il est juste là, il cherche la paix. Je ne veux pas des histoires, je ne veux pas des problèmes. Il avait l'impression qu'ici, il n'y a pas de problème, le pauvre. Il est arrivé ici, il me l'a dit l'autre, il y a un mois ou quelque chose, il m'a dit, moi je suis venu ici, je n'avais même pas l'intention de devenir membre ni rien du tout. Moi, tout ce que je veux, c'est la paix. J'entends la parole de Dieu et me laisse-moi tranquille. Le pauvre. Maintenant, il est fatigué à force de servir le Seigneur et tout ça. Oui, mais oui, la société n'aurait rien fait pour lui. Il dit, tu travailles à l'usine Citroën et puis c'est voilà, c'est bon. Hein. Et c'est tout ce que tu fais et puis après tu prends ta retraite et puis tu essaies de vivre avec le petit peu. Mais là, tout d'un coup, le Seigneur, il a donné toute une autre dimension à sa vie. Mais c'est ça. Tu ne tueras point. Hein, la société tue plein de monde. Hein, surtout ici, on est dans le 93, il y a plein de matière grise qui va à la poubelle. Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents. À force de voir leurs bêtises, on se voit qu'ils sont intelligents. Bon, ils s'en servent mal. Mais ils ont des capacités extraordinaires. Et la société, elle se fait rien. Mais nous, en tant que chrétiens, hein, on pense autrement. Tu ne tueras point. Ça, c'est une éthique. C'est une règle d'éthique quand on sort de la Bible. Hein. C'est 11h30. Et j'ai encore des commandements à faire. C'est 11h. J'ai qu'une demi-heure pour faire les autres. Bon. Je vous ai donné une idée. Hein. Donc, on peut aller beaucoup plus loin, je peux pousser plus loin, j'ai des trucs que je peux mettre, mais voilà. Hein, vous savez, parfois, il y a des situations certainement où vous aurez préféré avoir une gifle que d'entendre ce que vous avez entendu. Parce que ça tue. Ça, tu peux gâcher la semaine de quelqu'un. Tu lui dis un truc comme ça, et tu lui gâches sa semaine, il n'arrive pas à fonctionner, il n'arrive pas à faire. C'est son problème, mais toi tu l'as tué. Bon, heureusement que le Seigneur il va le relever, mais toi, hein, et demande pardon. Quand tu te rends compte que c'est quelque chose certainement que je l'ai blessé. Hein. Oh, Seigneur, pardonne-moi parce que là j'ai commis le sixième commandement. Là. Il dit oui, tu as raison. Et puis vous commencez à demander pardon et confesser, vous savez, ça donne pas envie de recommencer. Hein. C'est quand on ne demande pas pardon que c'est facile de encore blesser encore. Mais quand on commence à demander pardon, et sincèrement, oui, c'est pas une démarche facile. Hein, et ça coupe l'envie. La prochaine fois, je maintiens ma langue. Le Seigneur, il l'a mis dans une cage et moi, je l'ai ouverte, la cage. Septième commandement. Tu commettras point adultère. Ah ! Vous savez, et même de nos jours, on ne sait plus ce que c'est. Les gens du monde, quand même, ils disent, ouais, il t'a été infidèle, tout ça. Ah oui, tu as raison, tu peux te séparer de lui, tu peux te divorcer. Ils savent que c'est déjà être infidèle, c'est pas bon. Mais l'adultère, c'est carrément autre chose. C'est plus que ça. Hein. D'abord, c'est déjà pas respecter le mariage. Donc c'est toute une institution. Il y a des règles. Et tu n'as pas respecté le mariage. Et le mariage, c'était tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair sans perdre la personnalité ou l'individualité de chacun. Hein. Madame reste madame, monsieur reste monsieur, mais ils sont monsieur, ils sont madame et ils sont monsieur madame. Hein. Donc il y a une... Monsieur, il a une personnalité, madame a une personnalité, et monsieur, madame, ils ont une personnalité. Hein? Ensemble, ils ont quelque chose. Et il dit, et ça, c'est, il faut le maintenir. Et c'est-à-dire, à partir du moment où tu introduis un étranger là-dedans, tu as cassé l'alliance. En fait, quand ils deviennent un, quand il y a divorce, il y a déchirement. Hein. Tu as pris deux tissus, tu les as mis ensemble. Après, pour les séparer, il faut déchirer. Eh bien, déchirer, c'est jamais pareil. Hein. Et ça laisse des traces. Et bon, quand c'est des choses, bon, que c'était dans le passé, tout ça, ben, le Seigneur, il console. Mais bon, c'est jamais complètement oublié. Hein. C'est un fardeau qu'on porte. Mais après, les chrétiens, ben, quand Jésus a dit aux disciples, il a dit, mais oui, mais non, le divorce, ça ne se fait pas. Hein. Il dit, mais alors, qui va se marier alors? Si c'est comme ça, les règles comme ça, on ne va pas se marier. Il dit, ah, vous avez bien compris. Ben, prends ça au sérieux, hein, tu ne te maries pas comme ça. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle est jolie, hein, c'est qu'est-ce qu'il y a sous la peau. Hein. La beauté, c'est superficiel, hein. Et puis ça ne dure pas toute la vie. Hein. Hein, faut que tu l'aimes assez que quand les cheveux changent de couleur et puis la forme du corps, elle change. Et, hein, moi, avant, j'avais la poitrine ici. Maintenant, elle est tombée. Mais quand tu aimes la personne et pas pour son apparence, c'est autre chose. J'ai dit des jeunes hommes qui m'ont dit « Ouais, mais j'aime bien regarder quelqu'un de belle, de beau. » « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est de beau ? Tu veux une personne belle ou tu veux un corps beau ?»« Un corps beau. » « Un beau corps. » Voilà. Non, mais... Mon père, on était mariés déjà. Et mon père, il me manque parfois. Mais mon père, il a dit à Wina, que vous connaissez, il dit, quand tu as marié Steve, est-ce que tu t'es posé la question à savoir si il serait un bon père pour tes enfants? Il a dit non. Eh oui, mais ça fait partie. Hein. Tu penses rien qu'à toi, mais tu n'as pas l'intention d'avoir des enfants? Et ce sera un père comment ou ce sera une mère comment? Et ça, c'est plus important parce que ça se dure longtemps. Hein? Et puis finalement, tu sais, et vous avez tous vu, il y a des dames, hein, je vais prendre des dames parce qu'on sait toujours, on met le fardeau sur elles, mais des dames, qu'elles sont tellement, une personnalité tellement agréable qu'on ne pense même pas à quoi elles ressemblent. Parce que c'est la personne qu'on voit. Hein? C'est ça qu'on doit chercher. Il dit, tu commettras point adultère. Vous savez, Dieu, il a, quand il parlait d'adultère, souvent quand il parle de quand les enfants d'Israël allaient vers l'idolâtrie, il appelait ça l'adultère. Parce que c'est une infidélité. C'est une infidélité. Mais on peut rester marié et être infidèle. Et on peut rester marié sans aller après une autre femme. Hein, parfois, les choses qu'on voit sur un écran peuvent rendre infidèle. Ou bien, dans ma tête, moi, extérieurement, voilà, monsieur, madame, on a les enfants, tout est bien, je construis la maison, ma femme, elle a la voiture, elle a le permis, elle a tout. Mais toi, dans ta tête, tu dis, ah, cette femme, qu'est-ce qu'elle est pénible. Et si Dieu pensait comme ça de l'Église, hein, on serait où? Hein, parce que ça, Jésus, c'est son épouse, c'est l'Église. Hein. Et quand est-ce et lui, s'il y avait des raisons pour divorcer son épouse, ah, Jésus l'en avait, hein, l'Église. Parce que ça s'est mal comporté. Mais il a dit, non, moi je reste jusqu'au bout. Vous pouvez comporter comme vous voulez. Hein, Dieu a fait la même chose avec Israël. Hein, il a appelé un peu comme un épouse. Il a dit, quand est-ce que je vais donner une lettre de divorce? Mais vous m'avez abandonné. Il dit, mais moi, je ne vous ai jamais abandonné. Hein. C'est-à-dire, il faut que ça soit dans la tête dès le début. Hein. Pourquoi? Parce que je tire mes leçons, pas de ce qui se pratique. Vous savez, il y a plein de choses qui sont permises dans la société. Mais que nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas permis. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que... Il y a des gens, ils sont là dans l'église, oui. Et après, dès que ça l'arrange, il dit, oui, mais bon, c'est permis. Hein, j'étais devant le juge et il a laissé. Ah oui, mais non, c'est pas... Non. C'est question de... Oui. Pour Dieu, c'était déjà... Vous savez ce que Jésus, il a dit, hein, par rapport à cela. Il dit, vous avez appris que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme... Il n'a pas dit pour l'admirer. Hein, je crois que c'est bien. Le Seigneur a quand même fait les femmes belles. Hein, et il a fait agréable et beaucoup de choses. Il faut. Hein, mais pour la convoiter, ça veut dire que tu as des pensées. Et quand on commence à avoir les pensées, ça devient des actes si on ne les arrête pas. Il dit, tu as déjà commis. Je n'ai pas fait, je n'ai rien fait. Ah oui, mais tu as déjà... La pensée, elle est passée. Hein, et en fait, ça c'est marié ou pas marié. Hein. Il dit, moi je vous dis ce que Dieu pensait quand il l'a dit. Et il a dit, c'est dans son cœur que tu l'as fait. Et dans le cœur, c'est là où c'est le plus important. Hein. Après, on passe à la prochaine, la huitième. Tu porteras pas de faux témoignages. Non, tu voleras point, pas voler. Hein, c'est de pas voler, je crois que c'est ça. Hein. Tu ne déroberas point. Il y a beaucoup de manières de voler. Hein. Vous avez vu le dessin là, bon, il y a le voleur. Ça, mais il y a le voleur qui, il est payé. Et puis il est en train de discuter au téléphone avec les copains. Hein. Il est en train de voler du patron. Hein. Il y a beaucoup de manières de voler. On ne lui donne pas. On a signé un contrat comme quoi on travaillerait tant d'heures. Ben, si je n'ai pas travaillé tant d'heures, j'ai volé. Hein. Je ne suis pas payé pour la présence au travail. Je suis payé pour le travail. Hein. Donc une éthique chrétienne, c'est je suis payé pour un travail. Bon, les autres, ils rigolent et tout ça. Mais moi, je suis payé pour travailler. Après, bon, ça peut vous attirer des ennuis, hein, me dire, ouais, bah, toi, tu es chouchou du patron, hein, tu travailles les autres, et il faut se débrouiller, hein, il faut trouver, dire, Seigneur, aide-moi à trouver comment vivre ça. Hein, parce que le monde est cruel, hein, ils n'aiment pas des gens qui sont meilleurs qu'eux. Ils veulent rabaisser tout le monde. Hein, eux, ils ne vont pas monter, ils vont te rabaisser pour que tu rigoles avec eux, comme ça, il n'y a pas de. On est solidaire. Dans Éphésiens, il dit. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour acheter une plus belle voiture. C'est ça qui a marqué ? Ah non, une plus grande maison. ou de meilleurs habits. Qu'est-ce qu'on fait avec une augmentation, quand j'ai une augmentation? Si c'est une augmentation parce que j'ai besoin de plus pour vivre, donc Dieu pourvoit, c'est très bien. Mais si j'ai une augmentation alors que je vis bien, j'ai une augmentation, il dit, je t'ai donné une augmentation, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je t'ai donné de quoi? Hein, c'est parce que les gens ont donné du surplus qu'on a pu faire un travail ici. Hein. Il y a des gens quelque part qui donnent du surplus. Et puis à Fréjus, on est très reconnaissant parce que l'Église ici nous aide aussi là-bas. C'est des gens qui donnent leur surplus qui permet à l'œuvre de continuer là-bas. Hein, c'est pas juste une question de ne pas dérober, mais c'est une question de dire, Seigneur, écoute, j'ai décidé comment je vais gérer mon argent. Si tu me donnes plus que j'ai besoin, ben je sais ce que je vais en faire. Parce que je veux aider l'œuvre de Dieu. Je veux aider quelqu'un. Et ce n'est pas la peine que quelqu'un en fasse. Ça peut être quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on file une enveloppe. J'aime bien ce qui se fait ici. Hein, c'est une enveloppe avec un nom de quelqu'un dans l'offrande. On ne sait pas d'où ça vient. Et quand la personne ne sait pas d'où ça vient, à qui est-ce qu'il dit merci? À Dieu. Et puis Dieu sait récompenser ce qu'il veut récompenser. Hein. Mais cette règle, c'est pour protéger le bien d'autrui. Hein, c'est le commandement, le but, c'est pour protéger le bien. Tu ne déroberas pas. Ce qui est à quelqu'un, c'est à lui. Et tu ne dois pas le toucher. Et souvent, on parle du riche qui vole du pauvre, mais aussi, c'est pour protéger le pauvre aussi. Parce qu'il dit, tu ne prendras pas du pauvre non plus, donne-lui ce qui est à lui. Hein. Seigneur, il a dit, moi, quelqu'un travaille pour toi la journée, parce qu'à l'époque, il payait le soir. Il dit, tu lui dis, écoute, je n'ai pas sur moi, hein, rentre à la maison. Ben, l'autre, il dépendait de ça pour manger le soir. Donc il va rentrer, il va trouver ses enfants, et il a dit, j'ai rien, on va dormir sans manger ce soir. Il dit, tu as volé. Hein. Parce qu'il devait recevoir, tu ne l'as pas donné, tu as volé. C'est Dieu dit, non, tu ne voles pas, donne-lui. Hein, Dieu donne ce qui lui est dû. Hein, donc Dieu, c'est-à-dire c'est un commandement qui est là pour tout le monde. Hein. En Exode 22, par exemple, il parle, il dit, tu ne prêtes pas à un pauvre avec des intérêts. En fait, il ne devait pas prêter avec des intérêts avec personne. Hein, les Juifs ne devaient pas... Il dit, ton frère, tu ne prendras pas des intérêts. Tu le prêteras, s'il est dans le besoin, tu le prêteras, et sans intérêt. Tu ne voleras point, ça veut dire tu respecteras le bien d'autrui, tu peux faire après de toutes sortes d'autres choses. Et après, bon, il y a pas mal de règles là, sur ce principe-là. Tu ne déroberas point. Tout à l'heure, parler de... On peut penser à ce qu'on donne au Seigneur. Il dit, donne à Dieu, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et si tu ne donnes pas à Dieu ce qui est à Dieu, tu as volé. Hein, c'est ça qu'il dit dans l'Ancien Testament. Il dit, mais c'est encore... On t'a volé. Comment est-ce qu'on t'a volé, Dieu? On ne peut pas te voler, toi. Il dit, mais quand vous n'avez pas donné ce qui est à moi, hein, vous avez volé de mon temps, vous avez volé mon dimanche, vous l'avez pris pour vous, vous êtes fait payer en plus. Vous avez... Il y a toutes sortes de manières de voler, parce qu'on prend ce qui appartient à un autre. Je prends pour moi la gloire qui est à Dieu, j'ai volé. On passe au neuvième. Donc, tu ne porteras point de faux témoignage. En fait, dans Exode 20, le faux, c'est le sens de faux. Et dans Deutéronome, c'est, en français, c'est le même mot, hein, c'est faux. Mais en fait, le mot grec, hébreu, c'est un vain témoignage. Donc, du n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas que tu vas pas dire quelque chose de faux, mais tu vas pas dire n'importe quoi non plus. Hein, quelque chose de vain, d'inutile, qui n'a aucun rapport. Parce que le principe de justice dans l'Ancien Testament, c'était tout se décider sur des témoins. Donc s'il y avait deux témoins de quelque chose, eh bien, donc on pouvait porter un jugement. S'il n'y avait qu'un seul témoin, c'est pas bon. Il fallait deux ou trois. Alors, quand tu es tout seul et puis tu veux quand même que l'autre, donc tu trouves quelqu'un et tu lui dis de dire un mensonge, de dire « moi aussi j'ai vu ». Mais il dit, mais si tu apportes un faux témoignage, hein, Moïse disait, Dieu a donné ça, bien sûr, un faux témoignage. Si tu as un faux témoignage, et puis on se rend compte que c'est un faux témoignage, on portera sur toi le jugement qui aurait tombé sur l'autre. Et Dieu, il prend au sérieux, là. Il dit, tu dis pas des choses. Hein, Pinocchio, là. Hein. C'est... on en a des présidents Pinocchio, hein. Mais il n'y a pas que des présidents, hein. Chaque fois qu'il dit un mensonge, le nez s'allonge. Hein, c'est l'histoire du Pinocchio. Et puis il y a aussi, quand on raconte des choses à l'oreille de quelqu'un, hein, on fait courir des rumeurs, ça, c'est porter un faux témoignage. Pourquoi ? Parce que ça porte un jugement sur quelqu'un. Hein, tout d'un coup, cette personne, j'ai influencé sa pensée de ce frère, de cette sœur, et j'ai influencé sur un comportement, et elle ne va plus voir cette personne pareille, et j'ai détruit quelqu'un. Et il faut être sûr, hein, avant de répéter quelque chose, je dis, on m'a dit, c'est difficile de mettre on en prison. Mais toi, tu l'as répété, et tu ne sais pas qui l'a dit, et tu ne sais pas sûr que ça a été vérifié. Hein, donc, faisons attention, très attention, hein, de pas entre les frères et sœurs et tout ça. Si tu n'as pas vu, si j'ai pas vu. Mais un tel a dit, c'est une personne digne de confiance, qu'elle aille le voir. Si c'est elle qui a vu. Mais c'est pas moi j'ai pas vu. Et puis s'il n'y a qu'une seule personne qui a vu, tu peux rien. Hein. C'est souvent les situations dans un couple, il n'y a que deux. Hein. Il y a un qui dit oui, un qui dit non. Qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a pas de témoin, hein, pour beaucoup de choses. Bon, sachez qu'un truc, un problème, et c'est ça que mon expérience me dit, si tu peux pas, tu soupçonnes qu'il y a quelque chose, tu soupçonnes que c'est vrai, mais tu n'as pas les preuves. Laisse. S'il y a un vrai problème, il va apparaître. Celui qui vole une fois, tu ne l'as pas attrapé, tu sais que s'il réussit une fois, il va voler deux fois. Il y a un moment, il se fait attraper. Sinon, les gendarmes, ils abandonneraient. Mais ils savent que éventuellement tu fais une bêtise et on peut t'attraper, les preuves arrivent. Tu y a quelque chose dans l'église, il y a une personne qui a vu, il dit il n'y a personne d'autre, qu'est-ce que je peux faire? Ben, prie pour la personne, attends, parle à la personne, puisque tu as vu, parle à la personne. Si elle ne t'écoute pas, elle te dit parce qu'elle sait que personne n'a vu. C'était un peu le problème de David, hein, quand avec Bathsheba. Il avait réussi à faire taire tout le monde. Le mari, il est mort, il a tout couvert. Bon, lui, il souffrait, parce que lui, il savait. Hein, même si personne d'autre savait, lui, il savait. Et vous lisez les psaumes, il en souffrait terriblement. Mais Nathan, il vient le voir, il dit, mais tu sais, Dieu sait. Et il m'a dit ce que tu as fait. Bon, c'est un soulagement. En fait, si vous êtes témoin de quelque chose, vous avez entendu quelque chose, c'est vrai et tout ça, allez voir la personne, parce que peut-être vous pouvez l'aider pour ne pas recommencer. Hein, ça a été fait, d'accord. Mais essayez de lui trouver un moyen de corriger la chose pour que ça ne se refasse plus. Et vous avez sauvé la personne. Mais si je laisse, bon, après la personne est obligée de répéter, refaire la même faute, et puis après, puis éventuellement, elle se fait attraper, et puis après, c'est grave parce que c'est devenu un gros truc. Paul dit à Timothée, hein, donc le principe, il est toujours, c'est pas seulement dans l'Ancien Testament, il a dit, ne reçois pas d'accusation contre un ancien c'est avant tout un frère, si ce n'est pas sur la déposition de deux ou trois témoins. Il dit, tu entends quelque chose, il n'y a qu'une seule personne qui a vu, ben tu dis, ben, je ne veux pas le savoir. Parce que moi, je ne veux pas, je vais pas porter de jugement sur cette personne, je ne vais pas penser autrement de cette personne, même si c'est vrai, mais s'il n'y a qu'un seul témoin, je veux pas. Pour moi, je reste pareil avec cette personne. C'est une règle d'éthique. Hein, c'est une chose que je décide. Hein, c'est une chose que j'ai pratiquée dans l'Église ici. Une personne vient me dire, je dis, est-ce qu'il y a de l'autre ? Elle dit, non, il n'y a personne. Bon, on ne peut rien faire. On attend. On prie pour la personne. S'il ne répète pas, tant mieux. Et si ça se répète, ben, éventuellement, il y aura plus d'une personne qui sera affectée. Et voilà. Et c'est mieux comme ça. Parce que quand on commence à rentrer dans les discussions, j'ai vu, il m'a dit, ceci, cela, ça fait des scandales. Hein. Et après, il n'y a plus personne qui s'aime. En toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. Il n'y a que les menteurs qui ont besoin de jurer. Hein. Quand il y en a un qui jure beaucoup, tu sais que c'est un gros menteur. Parce que déjà, lui, il sait qu'il ment. Boula. Vous avez entendu ça, hein? Oula, hein? Boula. Ça veut dire, je te jure par Dieu. Hein. Boula. Hein, ça se dit comme ça. Pff. Ma parole. Ouais, ben ta parole, qu'est-ce qu'elle vaut? Hein? Je te jure sur le Coran de la Mecque. Hein, c'est ça qu'on dit dans le 93. Je te jure sur le Coran de la Mecque. Ben, il n'y a pas d'autre Coran, d'abord. Et puis, c'est un bouquin rempli de mensonges. Qu'est-ce que tu veux que je te croie, moi? Je te jure sur la Bible. Sur la tête de ma mère. Et ta mère, elle est morte. Hein, c'est toutes sortes de trucs. Jésus, il a dit, jure ni par le temple, ni par l'or du temple, ni par rien du tout. Ni par le ciel, ni par la terre, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Jure par ton portefeuille. Hein, si c'est faux, tu me donnes tout ce qu'il y a dans le portefeuille. Ah non ! Il n'y a rien. Oui. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Si tu as l'habitude de dire la vérité, tu n'as pas besoin. Il dit, jure-le. Écoute. Moi, je t'ai dit oui. Maintenant, tu me crois ou tu ne me crois pas, ça, c'est ton problème. Le 10e commandement, eh bien, tu ne convoiteras pas. Celui-là, c'est le seul qui n'a pas de jugement. Hein, parce que c'est difficile de prouver que quelqu'un a convoité. Hein, tu peux pas savoir, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mais le truc, c'est que si tu convoites, si tu commences à convoiter, tu es capable d'enfreindre n'importe lequel des commandements. Tu commences à désirer quelque chose, tu risques de voler. Tu commences à convoiter la dame, tu risques de faire quelque chose avec elle. Tu commences à convoiter une position, il y a des chances que tu marches sur quelqu'un pour l'avoir. C'est-à-dire, convoiter, c'est le début. C'est là où il faut arrêter la chose. Finalement, c'est... Et l'apôtre Paul, lui, il dit... Ah, il dit, moi, j'étais content de moi, j'étais fier de moi, j'ai gardé la loi et tout. Mais il dit, mais quand je suis arrivé au 10e, tu ne convoiteras point, il a dit ça, ça m'a détruit. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je convoyais tout le temps. Hein. Lui, il était un petit pharisien et convoitait les grands pharisiens. Il a massacré des chrétiens pour pouvoir monter en grade. Et on est capable de tuer, on est capable d'être injuste, on est capable de tout ça. Parce qu'on convoite et on veut être monsieur le maître. Il dit, ne convoite pas. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu lui dis, tu as une belle maison, je suis content pour toi. Mais tu ne dis pas, j'aimerais bien avoir cette maison. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Lui, sa femme, elle est gentille, tout, la mienne. Non. C'est parce que toi, tu ne l'aimes pas assez pour la changer. Hein. C'est comme ça que Dieu est fait avec son épouse. Hein. Il l'aime, il est patient, il travaille avec elle pour la transformer. Hein, il dit, c'est ça l'amour. Il dit, si ta femme, elle n'est pas ce que tu voudrais, c'est parce que toi, tu n'as pas travaillé avec elle. Donc, commence à travailler avec elle. Il dit, ouais, mais elle... Tant que tu penses comme ça, tu n'y feras rien. Hein, commence à travailler. Avec ton frère, tu convoiteras pas son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni autre chose qui appartient à ton prochain. Si tu Voilà. Tu es content pour lui et tu l'aides avec ce qu'il a et tu veux pour le mieux. Hein? Et puis, voilà. Alors qu'en fait, si tu... mais la boucle est bouclée parce que si tu reviens, tu reviens au premier commandement et tu reviens à tous les commandements. Finalement, si tu ne convoites pas, tu te protèges de tous les commandements, hein, de l'infraction de tous les commandements. Vous connaissez l'histoire d'Akab. D'Akab qui regarde par la fenêtre, il voit un champ et dit « Ah, j'aimerais bien ce champ ». Donc il se renseigne, ça appartient à un monsieur. Il va voir le monsieur, il dit « Écoute, tu me vends le champ, ou je te donne un autre pareil ». Il dit « Non, non, mais ça c'est dans la famille depuis longtemps, tout ça ». Alors il va pleurer et bouder. Parce qu'il sait que quand il boude, sa femme vient et dit « Qu'est-ce que tu as, mon chéri ? T'es pas content ?» Hein, les messieurs, ils boudent, c'est pour qui ? C'est pour madame, vient et dit « Quoi, chéri ? Mais t'es pas content ? Tu vas pas ?» Alors, Jézabel arrive et dit « Oui, mon chéri !» Il dit « Ouais, je voulais un champ, mais il ne m'a pas donné, il ne voulait pas. » Alors, et c'est qui le roi ici ? Ben alors ? Et alors, après, qu'est-ce qui va arriver ? On va avoir des faux témoins, on va avoir un crime, deux commandes déjà. Déjà, il a convoité, déjà après, on va causer deux crimes. Et après, il va voler parce qu'il va prendre le bien qui n'est pas à lui. Il va l'enlever des enfants, des héritiers de ce monsieur. Et regardez combien de péchés sont commis. David, il a convoité Bathsheba. Il dit « Ah oui, mais elle est mariée. » Il aurait dû arrêter là. Il n'a pas arrêté. Il a convoité, il a consommé. Après, il faut tuer. Après, il faut mentir. Après, il faut ceci. Et on fait mentir à Joab. Tu le mets là, puis tu le fais pour qu'il soit tué. Tout un montage. Et combien de commandements est-ce qu'il a ? Parce qu'il a convoité. Hein? Et donc, déjà, il dit, écoute, déjà... Et c'est ça qu'il dit. Il dit Dieu ne tente point, mais c'est tes passions. Tes passions qui te font désirer quelque chose. Il dit donc, va voir tes passions et reprogramme tes passions. Donne d'autres valeurs. Donne de la valeur à d'autres choses que ça. Hein? Ne fais pas ce que la chair demande de toi. Fais autre chose. Et finalement, pour répondre à ta question, Ebi, hein, les 10 commandements, ben, c'est tout à fait à propos. Hein, et ça, c'est une source d'inspiration pour nous. C'est un code éthique, parce que c'est un code éthique que Dieu a proposé pour une théocratie, c'est-à-dire où Dieu est le roi. Et dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, on a reconstitué la théocratie que Dieu voulait à l'origine. Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est ça qui va décider de ma vie. Et ça va décider de tous les détails de ma vie, de comment je me comporte et tout cela. Hein, donc, on a besoin, chacun de nous, on a besoin d'une éthique et de se mettre d'accord. Après, si Marcel, elle n'a pas exactement comme Jérémie, c'est pas grave. Mais si devant le Seigneur, tu es satisfait aujourd'hui avec ton code éthique, eh bien, suis-le. Hein? On n'est pas tous exactement pareils. Hein? On ne va pas tous dire la même chose. Non, il ne faut pas dire ça, ce n'est pas bien. Non, laisse-le arriver à ça tout seul. Hein? Encourage-le et on s'encourage mutuellement. Il y a des choses qui c'est pour nous tous. Hein? Prier, lire sa Bible, tout ça, c'est pour nous tous. C'est des commandements généraux. Et après, dans la pratique, parce que chacun, on a une autre vie, on a d'autres situations, on négocie autrement, et marié, son mari, il n'est pas chrétien, l'autre, son mari, il est chrétien, ça, il y a des choses, hein. Les enfants sont grands, les enfants sont petits, il y a des tas de choses. Mais quelque part, dire, mais qu'est-ce que la Bible dit, hein? C'est pas ce que je veux, ce qui m'arrange, c'est ce que la Bible dit. On va prier. Père Céleste, Ce qui est merveilleux avec l'Évangile, c'est que quand on était pécheur et incapable de vraiment changer notre vie, eh bien, tu nous as donné le sang versé sur la croix pour nous sauver et tu nous donnes une nouvelle naissance et tu nous régénères. Maintenant que nous avons la vie nouvelle, Eh bien, maintenant, nous sommes capables de réfléchir, de lire la parole, de savoir ce que tu penses, de prendre des décisions et de vivre autrement. Et Seigneur, c'est une belle chose parce que tu nous donnes la possibilité de participer à notre maturation, à notre sanctification, à notre croissance chrétienne. Et Seigneur, on a donné un nom, on appelle ça l'éthique chrétienne, mais finalement, c'est question de vivre la Bible, et vivre les commandements de la Bible, et vivre l'esprit de la Bible, pas la lettre. Et Seigneur, c'est qu'on ne pense plus comme... Jésus ne nous dise pas, mais vous avez entendu que, mais moi je vous dis. Ce qu'on veut, c'est savoir ce que toi tu dis, et vivre selon ce que toi tu dis, ce que tu penses. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs là, et s'ils sont là ce matin, c'est parce qu'ils désirent avancer, et Seigneur, je te prie de les accompagner. Parfois on a quelques petits échecs, mais c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Et donc Seigneur, aide-nous et accompagne-nous. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.